Chapitre 10e. Un peu moins d'une semaine après leur installation, la marquise tenta une sortie, c'est-à-dire qu'elle entreprit Bertrand sur ses amours. « Voyons, parlez franchement. Votre tête va mieux, car c'est la tête avant tout qui est prise. Mon Dieu, je peux à peine vous blâmer d'être romanesque. Moi qui parle, je l'étais effroyablement quand j'avais l'âge correspondant au vôtre. C'est donc un peu de ma faute, si vous faites des rêves tout éveillés. Mais si vous saviez comme ces rêves passent... » « Ma mère, » dit le jeune homme, « dans 2 ans, dans 3 ans, vous ne penserez plus que je rêve. » « Croyez-vous, en attendant, qu'il m'est agréable de vous voir malheureux à plaisir ?»« Je suis le plus heureux des hommes. J'ai trouvé la femme que Dieu a faite exprès pour moi. Je l'adore, elle-même. Soyez sûr que je ne changerai pas mon sort contre celui du prince qui va épouser Miss Kingsley. Pauvre homme, il mourra sans savoir ce que c'est qu'une véritable tendresse. » Tant de calme et tant de confiance dans l'avenir ne laissaient pas que d'inquiéter la marquise et de lui donner des idées noires. D'ailleurs, elle et son fils étaient également privés de tous les plaisirs sociaux, mais elle avait sur lui le désavantage de n'être point amoureuse. Elle ne sortait pas, faute d'envie et faute de monde à voir. Elle lisait beaucoup et sans se lasser, car à son intelligence naturelle se joignait une instruction solide. Quant à Bertrand, il avait fini par trouver un cheval à peu près muni de ses membres, et l'on ne voyait que lui sur tous les sentiers de la côte. Mais le second dimanche de son séjour à Bordighera, il fit une rencontre qui devait lui procurer des distractions plus efficaces. Quand il descendit de cheval ce jour-là, il était trop tard pour se rendre à la basse messe, où déjà la marquise était allée sans l'attendre. Le jeune homme fit sa toilette et gagna l'église vers 11 heures. On commençait à chanter l'office paroissial quand il entra. L'orgue, au même instant, se mit à jouer. L'instrument l'étonna par sa valeur autant que l'artiste par son école, très simple et très mélodique, toute différente de celle des organistes mathématiciens d'aujourd'hui qui parlent aux fidèles une langue savante, absolument inintelligible à la plupart d'entre eux. Et pourtant, quel bien ne pourrait pas faire la grande voix de l'orgue à tant de douleurs cachées qui dédaignent ou cherchent vainement la consolation sortie d'une bouche humaine. De quel souffle calme et puissant ne pourrait-elle pas soulever les ailes de la prière endormie par l'indifférence, glacée par la rancune sourde de l'être malheureux contre la main inexorable qui l'a frappé? Mais dans les 2 grandes tribunes du lieu saint, la chaire où le prêtre évangélise et cette autre chaire d'où descend l'harmonie sacrée, on trouve trop rarement l'émotion, cette douce mère des larmes. Bertrand de Fonlus, aux premiers accords du prélude grave et charmant, sentit son cœur se fondre comme un tendre appel d'un ami inconnu. Depuis tant de semaines, tant de mois déjà, il luttait jour et nuit, sans relâche et sans soutien, pour son bonheur et pour le bonheur d'une autre, devenue sienne par l'amour et la promesse. Enfin, il pouvait fléchir un instant sous le poids de l'armure, comme un soldat qui reprend haleine. Il pouvait pleurer, sans que les yeux toujours ouverts surprissent ses larmes, espoir de la défaite prochaine. Il pleura, caché dans la foule, baigné par le courant limpide et profond de la bienfaisante harmonie, et dans l'engourdissement versé sur lui, l'heure s'écoula sans qu'il l'eût mesuré. Tout à coup, les portes s'ouvrirent et la foule sortira, l'entraînant dans son flot. Les premières marches d'un étroit escalier s'offrirent à ses yeux. Bertrand s'y engagea presque sans réflexion, éprouvant le besoin de voir de près l'artiste, moins pour le talent qu'il venait de montrer, qu'à cause du pouvoir singulier qu'il avait d'atteindre aux fibres mystérieuses de l'âme. Renversé en arrière, les 2 bras étendus, les mains immobiles sur le clavier dans une posture puissante, la jambe gauche allongée vers la basse du pédalier, un grand vieillard à la chevelure blanche prolongeait l'accord final, largement répandu par le plein jeu des flûtes veloutées. En voyant un inconnu s'avancer, l'artiste salua d'un léger signe de sa tête embellie par la fièvre de l'improvisation. Quelques gouttes de sueur brillaient sur son front traversé de rides majestueuses. « Monsieur, dit Bertrand, vous pouvez voir que mes yeux sont encore humides. Je me suis permis de venir vous tendre la main. » pour vous remercier du bien que vous avez fait à un homme qui souffre. » Le vieillard saisit dans sa main fine celle qu'on lui offrait. Il répondit, sans paraître étonné, dans un français très pur. « Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est l'art d'abord, et aussi la nature qui vous a donné la faculté de le comprendre. Avec la jeunesse et la santé, l'art est le plus précieux trésor. Il peut tenir lieu de tout, j'en ai fait l'expérience. » Vous êtes plus modeste qu'il ne convient, répliqua Fonlus en jetant les yeux sur le pupitre vide. L'art qui vient de parler à mon cœur n'est autre chose que votre génie lui-même, car vous improvisez à ce que je vois. Encore une fois, merci. Et maintenant, laissez-moi vous applaudir. Vous êtes un grand maître. Oh non, tout au plus un élève des professeurs les plus illustres, qui a beaucoup travaillé et qui n'a plus depuis 30 ans d'autre amour en ce monde que celui de la musique. Vous l'aimez aussi, avec passion, et je l'aime précisément telle que vous la faites, mais celle-là, nous ne l'entendons guère à Paris. Paris, soupira l'organiste pour toute réponse. Il avait mis ses registres en ordre et fermé ses claviers. Son jeune visiteur gagna la porte de la tribune sans prolonger l'entretien, car la matinée s'avançait. Le vieillard descendait les marches derrière lui d'un pas encore très ferme. On pouvait voir que ses cheveux avaient blanchi trop vite quand ils furent tous deux sur la place devant l'église. L'organiste demanda « Par quel hasard ai-je eu l'honneur de compter un Parisien dans mon auditoire ? Vos compatriotes n'ont pas l'habitude de s'arrêter à Bordighera. Je fais plus que m'y arrêter, j'y suis pour quelques semaines, seul avec ma mère. Et vous, monsieur, vous connaissez Paris ? J'y raclais du violon quand vous n'étiez pas encore au monde, si l'apparence de votre âge ne me trompe pas. Mais la chance ne m'a point favorisé. Je suis revenu vieillir et mourir à mon gîte, c'est-à-dire dans cette petite maison dont vous voyez le toit sortir là-bas d'un massif d'arbres entouré d'une barrière. » Ils continuèrent à causer jusqu'à la porte du modeste enclos. Là, Bertrand prit congé de son nouvel ami. « Vous n'entrez pas dans mon humble cassine ? Ma mère m'attend. Si vous le permettez, je viendrai demain. À quelle heure vous trouve-t-on, maître ? À toutes les heures, sauf le dimanche, pendant les offices. Dans la semaine, je n'ai rien à faire, à moins qu'il ne prenne fantaisie à quelqu'un de se marier ou de mourir en musique. Mais entre nous, mon casuel est maigre. » Ils se quittèrent sur ces mots, et le marquis se hâta de regagner la plage, assez éloignée, car la maison du vieux musicien était adossée aux collines qui flanquent la ville au nord. Il s'était promis de prendre son aventure comme sujet de conversation pendant le déjeuner, mais il trouva, en rentrant chez lui, une lettre qui donna un autre cours à ses idées. Madame de Frézolles se plaignait de sa santé, chose qui n'était pas dans ses habitudes, et pour la première fois de sa vie, elle avait employé sa fille comme secrétaire. Du moins, Bertrand le supposa, en voyant l'écriture inconnue, et même il baisa les lignes, car il jugeait que ses pattes de mouche élégantes n'étaient point dues à la main robuste de Claudine Plantagenet. Toutefois, ce plaisir était plus que combattu par l'inquiétude qui venait de s'emparer de lui. Déjà, il voyait la mère de Suzanne couchée, morte, sur son lit avec les deux bras en croix, et comme de juste, ce n'était pas le sort de la défunte qui l'inquiétait le plus. Qu'allait devenir sa fille si le malheur arrivait ? La réponse ne fut pas longue à trouver. Ce qu'elle deviendra, elle deviendra marquise de Fonlus, malgré la terre entière, quand je devrais, pour la nourrir, aller tendre mon chapeau à la porte des cuisines de ma chère maman. Avec de telles pensées dans l'esprit d'un des convives, on peut imaginer ce que fut la conversation pendant le déjeuner. Bertrand ne prononça pas 3 paroles, mais il faut avouer que personne n'y perdit rien, car ce n'était pas du miel qu'il avait sur la langue. Dès que la chose fut possible, il s'échappa et courut au télégraphe qui était fermé en l'honneur du dimanche. Il ne lui restait plus qu'à se promener mélancoliquement au bord de la mer, ce qu'il fit, enviant le bonheur des nuages qu'un vent tant soit peu mêlé de pluie chassait vers le nord, peut-être sur les bois de Melun. Comme la pluie augmentait sans que sa tristesse diminuât, il se rabattit du côté de la ville et passa devant l'église où l'on chantait vêpres. C'était le cas d'user de nouveau du remède qui lui avait réussi le matin. Il entra, mais au lieu de le faire pleurer, l'orgue lui mit les nerfs en si piteux état que ses voisins se reculèrent doucement, épouvantés par cet inconnu qui serrait les poings, gonflait les joues et fronçait les sourcils au lieu de chanter le Magnificat. Enfin l'on sortit, et Fonlus alla se placer sur le chemin de l'organiste pour lui dire son fait et se plaindre de sa musique, de même qu'il se serait plaint à son pharmacien que sa quinine ne coupait plus la fièvre. Ce furent les expressions dont il se servit. « Bon, répondit le vieillard en souriant, vous voulez que je vous guérisse au hasard, sans vous avoir tâté le pouls et fait tirer la langue. Il doit y avoir du nouveau depuis ce matin ? Il y a une lettre que j'ai reçue et qui m'inquiète fort. Souci d'argent ? Non, hélas. Alors, je devine. Un homme de votre âge, ayant sa mère auprès de lui, ne peut être mis dans l'état où vous êtes que par une lettre de créancier ou par une lettre de l'enamorata. Or, ce n'est pas le créancier qui vous écrit, donc... Allez, jeune homme, on vous écrira demain d'une encre différente, et vous oublierez votre mauvaise humeur d'aujourd'hui. La donne est mobile. Monsieur, cher maître, fit Bertrand avec un peu de hauteur, j'ignore quelle est votre expérience en matière de créancier, mais sur l'autre question, j'ai lieu de croire que vous en êtes resté aux amourettes d'artistes. Mon cas est plus grave, malheureusement. À ces mots, le vieillard s'arrêta court, et le sourire très fin qui éclairait son visage disparut subitement. Il dit, en serrant avec force le bras de son compagnon, « Que Dieu vous préserve, qui que vous soyez, des amourettes d'artistes que j'ai connues. » Tandis que cet homme étrange prononçait lentement ces paroles, d'une voix plus basse, le marquis fut frappé de son regard, devenu tellement jeune que les cheveux blancs tombant le long des joues semblaient être un déguisement d'emprunt. « Pardonnez-moi, » fit Bertrand. « Si j'osais, je dirais, pardonnons-nous, car nous nous sommes fait tort mutuellement. Il y a des peines dont on est fier comme d'un honneur, et qu'on ne peut supporter de voir déprécier en quelque sorte dans le jugement des autres. « Tiens, » dit le musicien, « vous avez trouvé avant moi la phrase que je cherchais. Vous êtes comme mon violon. Je pense et c'est lui qui parle. À propos, venez chez moi. Il faut que vous connaissiez mon meilleur ami, ou plutôt mon seul ami. » « Qui sait ?» répliqua Fonlus, la main tendue. « Peut-être que vous en aurez deux à l'avenir. » Jamais des mains plus loyales ne se rencontrèrent, mais le vieillard ne pouvait parler. Il pressa le pas, baissant la tête, avec de grands soupirs qui montraient seuls son émotion. En peu de minutes, ces deux hommes, si singulièrement rapprochés, furent à la barrière du petit jardin, tout embaumé déjà de l'odeur des violettes. La porte de sa maison se referma sur eux, et toujours sans mot dire, le maître du logis fit entrer son compagnon dans une pièce assez vaste, mais fort nue, où se voyait sur une table un violon au manche tout usé. Le musicien jeta son chapeau et d'un large mouvement de tête secoua la crinière blanche qui lui donnait l'air d'un lion. Mais c'était en ce moment le lion blessé qui se retira à l'écart pour laisser saigner sa plaie. Déjà l'instrument vibrait dans ses mains, sans qu'il eût prononcé même une parole, comme si la parole eût été impuissante pour exhaler ce qui bouillonnait en lui. La passion de l'art est sans doute une autre passion encore moins heureuse. Tout en jouant, il marchait à grands pas, et son auditeur, confondu d'étonnement, oubliait tout pour écouter cette plainte sombre, ardente, parfois aiguë comme le cri arraché par une blessure ouverte. Ce virtuose inconnu, semant les notes autour de lui dans sa marche désordonnée, faisait songer alors à ces noires machines qui s'élancent à travers la nuit, laissant sur leur passage une pluie rouge de tisons brûlants. Mais d'une minute à l'autre, le rythme changeait. À l'emportement de cette fougueuse douleur succédait une lassitude accablée. Puis des appels tendres vibraient, souvenirs de joies passées pour ne plus revenir. Et tour à tour, on sentait dans cette âme passionnée l'effort douloureux vers la résignation, l'amère moquerie de soi-même, le calme et l'oubli imploré comme une grâce, obtenu comme un bienfait de l'art sublime. Enfin le violon se tut, et l'artiste sembla s'éveiller d'un songe en face de son auditeur. Il était confus, inquiet, ainsi qu'un homme qui craint d'avoir trop parlé dans son sommeil. Il déposa son instrument, essuya son front baigné de sueur, et dit, d'une voix très humble, qui paraissait ne point appartenir à cet être puissant, « Je vous demande pardon de m'être laissé voir dans un de mes accès. » Puis, avec un sourire mélancolique, il ajouta, « Il est vrai que c'est vous qui l'avez causé en me parlant de mes amourettes. Rudes amourettes que celles-là, jeune homme. Ce sont elles qui m'ont enterré ici, depuis 30 ans, loin du monde civilisé où j'aurais pu me faire une place. Et me voilà, devenu vieux avant l'âge, sans famille, sans fortune et sans nom, tout cela pour les yeux d'une femme et par ma folie. Voilà, si je ne me trompe, un exemple fait pour vous. Puisse-t-il vous servir, et ne perdez pas même une heure de votre jeunesse en des chagrins destinés sans doute à passer plus vite que les miens. » À ces mots, Bertrand se sentit si fort indigné qu'il oublia du coup l'admiration qui venait de le clouer au sol durant un quart d'heure. « J'espère bien que ma peine finira, mais je ne l'entends pas comme vous, s'écria-t-il. Avec l'aide de Dieu, la femme que j'aime sera mienne un jour. Tant que ce jour ne sera pas venu, je ne saurai être heureux. » Là-dessus, pour la première fois de sa vie, le pauvre garçon raconta son histoire et versa ses angoisses dans l'oreille d'un être humain. Le récit fut long, et quand il s'acheva, le jour avait tellement baissé que les deux amis ne s'apercevaient plus guère. Tout confus d'avoir été prolixe à ce point, le visiteur se leva pour prendre congé. « Revenez demain, » dit le vieux musicien en le reconduisant. « Nous parlerons d'elle encore, mais ne saurais-je point votre nom ?»«
Je suis le marquis de Fonlus. »
Dans l'ombre, on entendit une plainte sourde, suivie après un court silence de ces mots. « Prenez garde de ne point vous heurter à quelques meubles, comme je viens de faire. » La porte se referma et l'artiste se trouva seul. Au lieu d'allumer sa lampe, il prit encore une fois son violon et de nouveau, les échos de la pièce vibrèrent d'une mélodie puissante. Mais à cette heure, c'était l'amour qui chantait. L'amour jeune, enthousiaste, rayonnant, plein d'espoir, débarrassé de toute contrainte. L'amour tel que, 30 ans plus tôt, le vieillard d'aujourd'hui l'avait chanté avec la folie de l'art et de la jeunesse aux oreilles d'une femme qui ne pouvait être à lui.